sujet, puis j'avais pas la conviction, j'étais pas convaincu que je devais aller là, et toute la semaine, je priais, puis je disais, Seigneur, dirige-moi, je voudrais partager un peu des grâces que j'ai reçues dans cette conférence avec l'Assemblée. Et vous savez quoi? Jean-Sébastien a mentionné quelque chose la semaine dernière, lorsqu'il dirigeait la louange, il a dit, « L'Éternel veut que nous l'invoquions. » Est-ce que vous êtes convaincus? Et faites attention à ce que vous allez répondre. Est-ce que vous êtes convaincu au plus profond de votre cœur que notre Dieu est un Dieu qui prend de la joie lorsque nous cherchons sa face, lorsque nous nous tournons vers lui, que nous crions à lui, lorsque nous exprimons que nous avons besoin de sa direction dans notre vie, nous avons besoin de son secours? Est-ce que c'est une conviction dans votre cœur? Si c'est une conviction, vous allez chercher sa face. Vous allez crier à l'Éternel pour qu'il vous parle. Et cette semaine, lorsque je m'en allais à la conférence, c'était ça ma prière. Seigneur, connais des choses qui sont sur mon cœur depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, soit des domaines où je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu adresses ça dans ma vie, j'ai besoin que tu me fasses grandir. D'autres domaines où c'est encore juste comme une espèce d'intuition. Je dis, il y a quelque chose à travailler là, Seigneur. Je le vois par des fruits qui manquent dans ma vie, puis... Je ne sais pas, j'ai besoin que tu m'éclaires, que tu te révèles par ta parole, par une prédication, par un frère, par une lecture, par les circonstances, mais j'ai besoin que tu viennes m'éclairer. Et donc, j'allais à cette conférence dans cette attente avec foi, où je disais au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles cette semaine. » Et mardi matin, on est arrivé un peu d'avance parce que Alex étudie avec Southern Baptist Seminary, qui est à Louisville, et puis donc on allait rencontrer des gens là-bas sur le campus. Et on a eu un peu de temps pour nous après les rencontres. On a fait notre culte personnel et déjà Dieu avait commencé à répondre. Dieu m'avait parlé dans 2 Corinthiens 12. Dieu commençait à me parler. J'avais beaucoup d'attentes envers la conférence parce que je sais que Dieu se plaît à ce que ses enfants cherchent sa face. Et il y a eu toutes sortes de bénédictions pour moi où Dieu me parlait. Quand je dis que Dieu me parle, c'est qu'il y a des choses précises, des réponses, des instructions, une croissance dans ma foi que j'attends de lui. Parce que je vois qu'il y a des choses qu'il doit adresser pour que je grandisse. Et j'attends, je suis à l'écoute, je dis, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à croire, enseigne-moi la foi. Fais grandir ma foi, Seigneur. Et quand Dieu adresse ces choses-là, tu sais que, à quelque part, dans sa providence divine, il venait de parler à toi. Et Dieu m'a parlé de plusieurs manières. C'est vraiment une bénédiction. Ce que je veux vous partager ce matin, c'est la dernière prédication qui nous a été adressée par C.J. Mahaney. C.J. était là pour nous préparer au retour sur le terrain. Une conférence, ce n'est pas la vraie vie. Hein? On est là, puis on baigne dans la parole pendant 3 jours avec une gang de pasteurs qui s'excitent pour l'Évangile. Ce n'est pas le terrain, ça. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas un frère qui passe par une épreuve, une sœur qui a appris qu'elle a un cancer. Ce n'est pas un frère qui est en train de s'écarter de la foi. Alors, CJ était là pour nous préparer à revenir dans la réalité et à être des pasteurs pour l'Assemblée qui vont apporter l'Évangile au quotidien. Et vraiment, Dieu m'a rencontré à travers ça. Alors, ce que je ne fais jamais, vraiment... Je le fais ce matin, je vous partage essentiellement ce que CJ nous a partagé. J'ai repris ce passage, je l'ai médité, je suis allé dedans, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Et je vous partage ce que lui nous a partagé. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Philippiens, au chapitre 1. On va regarder ensemble les versets 3 à 8. Dieu m'a parlé de toutes sortes de manières. Je pense que j'aurai l'occasion de vous partager ça. Des fois, je vais trop vite pour partager ces choses-là. Mon épouse qui... souvent m'apporte beaucoup de sagesse, me dit, Yannick, attends que ça rentre plus profond dans ton cœur, attends que tu deviennes cette personne-là. Et ces choses-là, je vous les partagerai plus tard, mais déjà, je voulais vous partager ça ici. Dans Philippiens 1, les versets 3 à 8, on va voir ensemble 3 caractéristiques de la vie chrétienne de l'apôtre Paul. 3 caractéristiques de sa foi, de sa manière de vivre sa foi. Dans son cas, de vivre son pastorat. Mais en réalité, ce que ça parle, c'est sa relation avec l'Église. C'est sa relation même avec la foi aussi, on va le voir. Et je crois 3 caractéristiques que Dieu veut apporter dans ma vie premièrement. Tout ce que je vais vous servir ce matin, je vous assure, avec larmes, je l'ai reçu de Dieu pour moi. Mais je l'ai reçu aussi pour l'Assemblée. je crois trois caractéristiques que Dieu va produire. Et j'ai cette confiance que Dieu va le faire. J'ai tellement été édifié par tout ce qu'on a entendu déjà ce matin. Dieu déjà est à l'œuvre au milieu de nous. Mais il va nous amener beaucoup plus loin que ça. Alors, trois caractéristiques qu'on va voir ensemble que Dieu veut produire dans cette assemblée. Je vous lis les versets 3 à 8 dans Philippiens 1. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Si vous n'êtes pas familier avec ça, Paul écrit une lettre à l'église qui est dans la ville de Philippe et leur partage ses sentiments. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul était un apôtre, mais il était premièrement un chrétien. Et il était appelé à vivre toutes les responsabilités de sa vie dans sa foi. Ce qu'il avait à offrir aux églises, c'était sa foi à lui, sa vie transformée. Et Paul avait d'énormes responsabilités. Comme vous le savez probablement, Paul était un implanteur d'église. Donc, à quelque part, il avait ce sentiment d'être père de ses assemblées. C'est Christ qui le fait, mais comme sous-berger, on porte ces choses sur notre cœur parce qu'on est conscient de la responsabilité que Dieu nous confie. Et Paul avait implanté plein d'églises. Il avait été père dans la foi, probablement de multitudes de croyants. Il arrivait dans une ville, il n'y avait pas de témoignage chrétien. Il allait là où les craignants Dieu se trouvaient, les Juifs, où les païens qui commençaient à s'intéresser à la foi juive, il leur exposait l'Évangile, il découvrait l'Évangile. Il était père dans la foi de tous ces gens. Et on lit dans 2 Corinthiens 11, 28 et 29, Paul nous partage son cœur. Il dit, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Paul était très réaliste. Il savait très bien que sauver ne veut pas dire entièrement transformé. Alors, il continue en disant, « Qui est faible que je ne sois faible? » C'est le cœur d'un père pour ses enfants. « Qui vient à tomber que je ne brûle? » Paul portait sur son cœur, sur ses épaules, cette réalité d'entendre un frère qui a fait profession de foi puis d'avoir des nouvelles par une lettre. Il est en train de s'éloigner de la foi. « Prie pour lui, Paul, ça va pas, ça va pas. » Est en train de retomber dans ses anciens péchés. Une épreuve est survenue, puis il est en colère avec Dieu, est en train de s'éloigner de Dieu, il méprise le nom de l'Éternel parce qu'il n'accepte pas cette épreuve qui survient dans sa vie. Paul portait toutes ces choses sur lui-même. Un autre a été emporté par une fausse doctrine. Il avait saisi Christ, puis il est en train de retourner à la loi, comme si la loi était nécessaire en plus de l'Évangile, comme si on avait besoin de gagner notre salut après l'avoir reçu par grâce. Et là, Paul portait ces choses sur ses épaules. C'est un peu le même sentiment qu'on a comme parents pour nos enfants. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Mais des fois aussi pour des gens qu'on aime, qui nous sont très chers. Des fois c'est bête, on appréhende le pire. Vendredi, on est allé au spectacle, à un spectacle de Jade, ma petite fille de 10 ans. Puis Jade et Bastien vont dans une école avec un programme de musical. Alors, ils ont des super de spectacles. Je vous dis, la barre est vraiment haute. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire à ses enfants. Puis là, Jade avait un duo. Elle allait danser une espèce de tango. Puis c'était un highlight, personne ne le savait. Jade allait danser. Là, notre fille nous en parlait depuis des semaines. Et vous savez ce que c'est? Je pense que je faisais plus de projections que d'autres choses. J'avais tellement peur que, je sais pas, qu'elle tombe, qu'elle, tu sais, puis qu'elle vive un échec, puis qu'après ça, elle soit toute triste de ça. Fait que là, papa, hein, avant qu'on parte, là, on va aller prier ensemble dans le salon, puis là, on va prier. Puis là, je sais pas si je priais Dieu ou si j'essayais de parler au cœur de ma fille à travers ma prière. Seigneur, je te prie que ça se passe bien. Puis si ça se passe pas bien, Seigneur, on le fait pour toi, Seigneur, hein? Vous comprenez ce que c'est? Je pense que je faisais plus de projections que d'autres choses. Mais vous savez ce que c'est? On aime, on les aime, on veut pas les voir vivre un échec, on veut pas les voir tomber, on veut pas les voir s'éloigner. Et c'est les sentiments que Paul vivait pour ses églises, ces gens qu'il voyait s'épanouir dans la grâce, puis après ça, vivre des combats. Et il portait ça comme un père. Paul avait d'immenses responsabilités. Et comme si ce n'était pas assez, Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Paul écrit cette lettre d'où déborde énormément de joie. Quand on lit la lettre aux Philippiens, on l'a appelée la lettre de la joie. Au moment où il écrit, il est en prison. Et il est encore rempli de joie. Il dit, « Je rends grâce à Dieu, je ne cesse de manifester ma joie. » Il est en prison. Il porte tous les soucis, tous les fardeaux des églises et il rend grâce à Dieu et il exprime sa joie. Je crois, et je pense que c'est vrai, dans les Écritures, il n'y a personne, à part le Seigneur Jésus, qui exprime davantage l'action de grâce et la joie que l'apôtre Paul. CJ allait jusqu'à dire, il n'y a même aucun écrit qui manifeste hors de la Bible même autant de joie et d'action de grâce. Et vous savez, quand Paul commençait comme ça ses lettres, ce n'était pas une formule de politesse. Ce n'était pas juste comme, ben, gars, je ne vais pas commencer bêtement en leur disant tout ce qu'ils font de mal. Paul était caractérisé par l'action de grâce. Si vous êtes familier avec le livre des Actes, rappelez-vous comment est-ce qu'il s'est comporté lorsqu'il s'est trouvé en prison avec Silas, son compagnon d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous rappelez pas? Chantait des louanges au Seigneur en pleine nuit. Deux fêlés. Deux malades. Ils sont en prison. Ils sont en train de chanter des louanges au Seigneur. Louer Dieu parce que Dieu les a jugés dignes de porter des opprobres comme ça, comme les apôtres l'avaient vécu avant. Paul était caractérisé par l'action de grâce et par la joie. C'était dans sa vie, c'était dans son ministère. Constamment, plus on lit les lettres de Paul, plus on découvre que cet homme faisait une priorité dans sa vie. De rendre grâce à Dieu constamment, en toutes circonstances. Maintenant, si on prend le temps d'étudier quelles sont les actions de grâce qui sortent de la bouche de Paul, bien, sûrement que Paul rendait grâce pour le bon repas. Sûrement que Paul rendait grâce pour la santé, qu'il rendait grâce pour les temps de repos, qu'il rendait grâce pour toutes sortes de choses. Mais ce qu'on voit dans les lettres ici, ce qui produisait de la joie dans le cœur de Paul, c'est de voir l'œuvre de Dieu. Ce qui ressort vraiment très, très, très fortement, c'est que ce qui amenait Paul à rendre grâce à Dieu, c'était lorsqu'il voyait la manifestation de l'œuvre transformatrice, de la puissance de l'Évangile dans la vie des gens. Quand Paul entendait dire d'un frère qu'il avait pris une décision d'abandonner un péché, quand il entendait dire que l'Évangile avait pénétré un autre cœur, ça amenait des louanges dans le cœur de Paul. J'ai mentionné tout à l'heure dans la louange, mon petit garçon est venu me voir juste avant. Je ne sais pas ce qui se passait ce matin, mais disons qu'on était dans un combat spirituel. Ça craquait de tous les bords ce matin, chez nous, ici, partout. Et il s'est passé quelque chose avant le service, puis il a fallu que j'intervienne sévèrement avec mon fils. Sévèrement. Et puis, Bastien est descendu entre l'école du dimanche et le service. Il est venu me voir. J'étais à la toilette, il attendait. Quand j'ai ouvert la porte, les larmes aux yeux, il m'a dit, « Papa, je te demande pardon pour tantôt. » C'est Dieu qui est en train de faire une œuvre dans son cœur. Et c'est ça qui apportait le plus de joie à l'apôtre Paul. Parce que c'est juste ça qui va rester dans l'éternité. Ce n'est que cette œuvre de grâce dans les cœurs qu'on va apporter avec nous dans l'éternité. Et chaque fois que Paul discernait dans la vie d'un individu, ne serait-ce qu'un tout petit indice d'une œuvre de la grâce, que l'Évangile est en train de faire son chemin dans le cœur davantage, une consécration plus grande, un avancement dans la foi, une décision de consécration, une persévérance à travers les épreuves. Jonathan, tantôt, lorsqu'il avait le souffle coupé, lorsqu'il était pris par les émotions, c'était quoi qui était derrière ça? C'est « Père, tu nous as accompagnés à travers la grossesse, la naissance de ce fils qui est prématuré, la grâce de le porter. » Moi, ce n'était pas pour ça que je rendais grâce à Dieu quand j'entendais Jonathan tantôt ou quand je ne l'entendais pas. C'était à cause de leur foi à travers l'épreuve. C'était à cause de leur foi à travers l'épreuve. Parce que je voyais l'œuvre de la grâce dans leur vie. dans leur vie, à travers l'épreuve. Paul se réjouissait chaque fois qu'il voyait une manifestation de la grâce dans la vie des frères, à chaque occasion. C'était une priorité dans sa vie. Maintenant, l'église de Philippe était une belle église. Dans toutes les églises du Nouveau Testament, vous savez, des fois, ça me fait rire. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, on devrait être comme les églises du Nouveau Testament! » Laquelle? Corinthe? Éphèse? Galate? On retourne sous la loi, c'est ça? Laquelle tu veux qu'on imite, là? Je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas lu le Nouveau Testament, toi. Corinthe avec l'inceste, puis tout ça, c'est ça? L'église de Philippe était une église assez bien, mais si vous lisez toute la lettre, c'est une église où il y avait de l'orgueil. C'est une église où il y avait deux personnes qui étaient très influentes dans l'église, qui avaient un conflit qu'ils ne réglaient pas ensemble. Et cela menaçait de venir contaminer tout l'esprit de l'église. Mais parlons de Corinthe. Parlons de Corinthe. Vous irez lire l'introduction de la lettre aux Corinthiens. Je ne sais pas si j'aurais eu beaucoup d'actions de grâce à prononcer sur cette assemblée. Et pourtant, l'apôtre Paul commence en disant « Je ne cesse continuellement de rendre grâce à Dieu. » Voyez-vous, cette action de grâce qui sortait du cœur de Paul, c'était pas une négation de la réalité, c'était pas de la flatterie, c'était pas quelqu'un qui pense que la vie chrétienne, c'est facile, puis tu proclames l'Évangile, tout le monde va se convertir, ça va bien aller, ils vont changer. Wow, c'est beau l'Église! Paul avait appris à pleurer avec celui qui pleure, à souffrir avec celui qui souffre, à pleurer pour celui qui est en train d'abandonner la foi, et à travers tout ça, à voir l'œuvre de la grâce de Dieu. Paul faisait une priorité dans sa vie de chercher constamment l'œuvre de la grâce de Dieu. Les moindres indices. Un frère qui persévère malgré toutes les épreuves. Une sœur qui est tentée d'abandonner la foi, mais qui ne l'a pas abandonnée. Quelqu'un qui revient à la foi. Chacun des indices. C'est une caractéristique dans sa vie. Et vous savez quoi? C'était une protection contre le murmure dans sa vie. La tentation, comme berger, de regarder les églises, de regarder les frères et sœurs, de regarder l'assemblée, puis de dire... « Seigneur, quand est-ce que ça va se réveiller? Quand est-ce qu'il va revenir? Ça fait 25 fois que je l'exhorte avec larmes, Seigneur! » Et de commencer à murmurer. C'était sa protection. Dieu parlait à mon cœur, frères et sœurs. Vous savez ce que c'est qu'être parent? C'est ça, être un sous-berger pour Jésus-Christ. C'est ça, être un sous-berger. Et Paul, comme sous-berger par excellence, voyait la grâce et il était caractérisé par l'action de grâce, par la joie. Est-ce que vous êtes une personne caractérisée par l'action de grâce et la joie? Si vous demandiez à votre épouse, et je vais le dire comme CJ, si vous alliez vers votre épouse tantôt et que vous disiez... « Chérie, si je te promettais de ne pas me fâcher, là, j'aimerais que tu me dises la vérité. Est-ce que je suis caractérisé par l'action de grâce et la joie? » Qu'est-ce qu'elle répondrait? Si vous alliez vers vos enfants, puis que vous demandiez à vos enfants, vers un ami, vers des collègues de travail, est-ce qu'ils diraient « Oui, tu es quelqu'un qui voit les belles choses que... ton Dieu est en train de faire. » Des fois, je te trouve malade, là, parce que je n'ai pas ta foi, mais oui. Ou est-ce qu'il dirait de vous, « Ah, tu es quelqu'un de sérieux. » Je pense à moi, « Ah, tu es quelqu'un de sérieux. Tu es consacré. C'est sérieux, la vie. Tu es appliqué. » Mais tu es chargé de soucis aussi. Tu es chargé d'inquiétude aussi. Tu es appliqué, mais je ne dirais pas que tu es caractérisé par la joie et l'action de grâce. Je ne dirais pas que tu vois constamment ce que Dieu est en train de faire. Et dans le contexte ici, on parle de l'Église. Alors appliquons-la à l'Église. Quand vos enfants vous entendent parler de l'Église, quand vos amis, vos frères et sœurs dans la foi, dans un café, n'importe quand, vous entendent parler de l'Église, qu'est-ce qu'ils entendent sortir de vos bouches? L'action de grâce? De la joie? Ou de la critique? De l'inquiétude? Des frustrations? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Voyez-vous, c'était une caractéristique dans la vie de Paul. Et non seulement il l'exprimait à Dieu, c'est ça qui est merveilleux ici, il l'écrivait dans la lettre. Alors ça venait produire un double fruit dans sa vie. Non seulement lui était libre des tentations, du murmure, de la critique, même du murmure contre Dieu, voyez-vous. Toute critique contre l'Église est une critique contre Dieu. Contre ce Dieu qui n'est pas capable de changer son Église. Qui n'est pas capable de transformer un frère. Alors, non seulement ça le protégeait de cela, mais en plus de ça, il le disait. C'est ça qu'il fait ici. Il écrit une lettre, puis il leur dit, « Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour les changements que je vois dans ta vie, pour la part que tu prends à l'Évangile, pour ta fidélité. Je vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. » Il le disait. Avez-vous déjà expérimenté ça? Qu'un frère, une sœur viennent vous voir, puis qu'ils disent, « Faut que je te partage quelque chose. » Cette semaine, je pensais à toi, puis je bénissais Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Simplement de devoir persévérer avec fidélité, je bénissais Dieu. La semaine dernière, on était à la pastorale. On était avec un couple, des amis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, qui venaient à l'assemblée ici, qui sont dans l'œuvre maintenant. Puis là, la sœur, elle nous partageait, elle dit, « Dieu travaille sur ma douceur. Dieu travaille pour m'apaiser puis apprendre à être plus édifiante lorsque je parle. » Et spontanément, j'ai dit, « Sais-tu quoi? Ça paraît. » C'est évident, je l'avais remarqué. J'avais marqué ce changement-là dans ta vie. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait à cette sœur-là? Wow! Dieu travaille dans ma vie, puis ça paraît. Il n'y a même pas de place pour l'orgueil. Hein? Quand vous allez complimenter quelqu'un, mais en fait, vous êtes en train de dire, « Je vois ce que Dieu fait dans ta vie. » C'est tellement doux parce que ça nous rappelle que c'est Dieu qui le fait. Puis en même temps, c'est tellement encourageant que quelqu'un vienne nous dire, « Je vois la grâce de Dieu dans ta vie. » Je crois, frères et sœurs, que ce doit être une caractéristique de la vie de l'Église. Je crois que ça doit caractériser nos relations, nos rapports. Et voyez-vous, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. L'apôtre Paul jeûnait, priait à genoux. Nuit et jour, il intercédait auprès de Dieu pour ce frère, cette sœur qui continue à s'éloigner de la foi, pour cette personne qui ne va pas bien, pour une église qui était amorphe, qui avait besoin de se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. Ça veut dire qu'on ouvre les yeux non seulement sur ce qui ne va pas, mais qu'on croit en Dieu et qu'on voit ce qu'il fait. C'est ça que ça veut dire. Et je crois que Dieu nous appelle à grandir dans cette caractéristique-là. Je le vois déjà chez plusieurs. Je crois que ça doit devenir un fruit vraiment de l'Esprit très, très manifeste dans cette Église. Ça doit éclairer tous nos rapports les uns avec les autres. Car c'est ainsi que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont voir l'amour au milieu de nous. C'est dans ces actions de grâce tellement saintes et divines et bénies où on dit, je vois ce que Dieu fait dans ta vie. Je suis content de voir ta persévérance et d'aller bénir un frère et une sœur et de le faire dans la louange. Porter les fardeaux, louer Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est une caractéristique qui doit venir dans cette assemblée. Et j'ai vraiment la foi que Dieu va le faire. Voyez-vous, Paul, ce n'était pas une caractéristique chez lui qui était, comme je le dis, quelque chose de naïf, comme s'il n'ouvrait pas les yeux sur les problèmes de l'Église. Pourquoi est-ce que Paul pouvait continuer à rendre grâce? C'est parce qu'il y avait une autre caractéristique beaucoup plus fondamentale qui était là. Toutes ces actions de grâce, ces yeux qui voient les manifestations de la grâce, prenaient racine dans la foi que Paul avait dans l'Évangile et dans la puissance de l'Évangile. Et ceci l'amenait à avoir confiance dans l'avenir. C'est la deuxième caractéristique que je veux souligner ce matin. Et je pense que c'est de celle-là que la première vient. Paul avait confiance dans l'avenir de l'Église. Regardez bien ce qu'il dit au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé. Paul regardait en avant, il regardait à l'avenir de l'Église malgré tous les problèmes de l'Église. Et il avait cette conviction dans son cœur que Dieu allait achever l'œuvre qui avait commencé. Pourquoi? Parce qu'il pouvait regarder en arrière et dire, cette œuvre a commencé par la puissance de l'Évangile. Paul connaissait la puissance de l'Évangile. Il connaissait celui qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il avait cette conviction, comme il le dit dans Romains 1, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, non seulement pour notre pardon, mais pour notre transformation. Paul connaissait d'où venait le début de l'œuvre. Il connaissait la repentance de ses frères et sœurs qui avaient été brisés par la réalisation de leur péché et du salut qu'il y a en Jésus-Christ, du pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Il savait que ces gens-là étaient entrés dans la foi à cause de l'Évangile. Et il avait maintenant cette conviction que si l'Évangile avait été puissant pour les pardonner, l'Évangile était puissant pour les transformer. Dans cette assemblée, comme la Bible enseigne, on croit que si Dieu est puissant pour nous sauver, il est puissant pour nous garder jusqu'à la fin. C'est vrai? On appelle ça la persévérance finale des saints ou l'assurance du salut. Dieu est assez puissant pour sauver, Dieu est assez puissant pour garder, il va honorer ses promesses, il va nous garder jusqu'à la fin. Ma question ce matin, c'est, est-ce qu'on croit que Dieu est assez puissant pour transformer? Voyez-vous, Paul dit un tout petit peu plus loin dans sa lettre, verset 9, il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Paul avait la conviction que ces transformations-là n'allaient pas se passer 2 secondes avant la mort. « Ah oui, oui, le Seigneur est fidèle, il va nous rendre parfaits pour le jour de Christ. Ça va peut-être tout se passer à la fin. » Il nous a sauvés, on est pardonnés, puis à la fin, il va nous transformer en 1 seconde. Mais attendre beaucoup plus que ça. Paul connaissait les églises, connaissait les combats des chrétiens, connaissait leurs chutes, leurs faiblesses. Il les regardait et il disait, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, celui que les griffes de la mort n'ont pu retenir, et qui a pourvu au pardon de vos péchés, est fidèle pour rendre parfaite cette œuvre. Et je prie que votre amour grandisse de plus en plus, de jour en jour, en jour en jour. Je suis persuadé qu'il va vous transformer. » Paul avait la foi dans la puissance transformatrice de l'Évangile. C'est ce qui lui permettait de voir tous les indices de la grâce. Paul avait confiance dans l'avenir de l'Église. Et lorsque parfois vous regardez l'Église, vous regardez un frère, vous regardez une sœur, puis vous avez le goût de laisser tomber, de vous dire, « Bof, il rentrera, je veux dire, la porte du ciel va se fermer sur sa queue de chemise à celui-là. » Ah, je vous le dis, hein, on n'est pas toujours franc avec nous-mêmes. Mais on le pense de plusieurs frères. C'est ce qui fait qu'on va murmurer, qu'on va dire, « Ah, Ça avance pas. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est, le frère? Il n'est pas consacré au Seigneur. » C'est un manque de foi. Et Dieu m'a parlé à moi, je vous le dis, Dieu m'a parlé. Vous savez, comme pasteur, on regarde l'assemblée, on regarde un frère, on regarde une sœur, puis on porte une tristesse. Ça, je suis capable de faire ça. Dieu m'a donné ça. C'est tellement facile pour moi de pleurer si l'Église ne va pas bien, de porter ça sur mon cœur. Ça, c'est facile pour moi, mais Dieu me disait déjà depuis un bon bout de temps, Yannick, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Qu'est-ce qui arrive si tu as un cœur pour les gens, si tu as un cœur pour tes enfants, tu t'inquiètes pour tes enfants, mais que tu n'as pas de foi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va sortir? Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Ça va être dur. C'est de l'inquiétude. C'est de l'urgence. C'est important que ça change. Tu ne réalises pas où tu t'en vas. Et c'est par la force de nos arguments qu'on espère convaincre la personne. Excuse-moi, je t'ai fait peur. Hein? Excuse-moi. Vous l'amènerez quand Normand y prêche. Moi, je suis un peu plus... Si tu n'as pas de foi, mais que tu as un cœur, tu aimes la personne, tu t'inquiètes pour elle, ça va sortir avec un paquet d'inquiétudes. Plein d'inquiétudes dans le cœur. Pas de foi. Là, tu vas aller vers la personne, puis écoute, ça presse. Mais c'est bien. C'est bien, c'est de l'amour. Mais il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Et Dieu me parlait déjà depuis un bon bout de temps. Yannick, c'est bien que tu pleures. C'est bien que tu pleures. C'est bien que tu intercèdes. Est-ce que tu as la foi, Yannick? Parce que si tu n'as pas la foi, le problème n'est pas avec tel frère, telle soeur, et pas avec toi. Le problème est dans ta foi envers Dieu. Tu vois? C'est que tu ne crois pas en moi, Yannick. Tu ne crois pas dans la puissance de l'Évangile, Yannick. Ce qui faisait que Paul rendait continuellement grâce à Dieu pour tous les indices, toutes les manifestations de la grâce, c'était parce que Paul connaissait la puissance de l'Évangile. Et je veux vous inviter, frères et sœurs, à vous repentir, comme Dieu le fait avec moi, à vous repentir si vous doutez de la puissance de Dieu. Tu sais qu'une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, crois en Dieu. Et dès qu'il y a un indice, une manifestation de la grâce, rends grâce à Dieu, persévère, il est encore là ce dimanche-ci. Puis tu sais que dans le fond, ça va vraiment mal. Oh, bénis Dieu qui soit ici. Bénis le Seigneur qui soit ici. Il est ici pour entendre la parole de Dieu. Et va lui dire que tu es convaincu que Christ est assez puissant pour continuer son œuvre. C'est la deuxième caractéristique. Dieu veut la produire en nous, frères et sœurs. C'est à ce prix-là que nous allons manifester la personne de Christ. On va manifester la puissance de l'Évangile les uns envers les autres. C'est à ce prix-là qu'on va être édifiant et qu'on va attendre de Dieu de grandes choses parce que Dieu est grand. Les obstacles sont immenses, les transformations sont lentes. C'est correct. Plus les obstacles sont grands, plus mon Dieu est grand. C'est correct, Seigneur. Tu as promis tes promesses, tu les respectes, tu vas le faire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et pas seulement 2 secondes avant la mort. Donc, si on veut être biblique, avec celui qui n'avance pas, Dieu le châtie. J'ai confiance dans les promesses de Dieu. Dieu m'a châtié lorsque je ne voulais pas avancer. J'ai confiance dans la fidélité de Dieu. S'il est son enfant, Dieu va le faire grandir. S'il faut, il va être châtié pour ça. Parce que c'est une marque de l'amour de Dieu pour ses enfants. Deuxième caractéristique. Troisième, et je termine là-dessus. Verset 7. Et 8, Paul dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, alors qu'il est en prison, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il y a deux mots qui sont importants ici. La fin du verset 7. Lorsqu'il dit, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Celui que Jésus-Christ a aimé, au point de l'attirer à lui, au point de le laver de ses péchés, participe à la même grâce que moi. Eh bien, Paul dit au verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Paul étendait ça dans l'église de Philippe à l'orgueilleux, à ces deux personnes qui ne voulaient pas régler leur conflit, à ceux qui l'avaient réprimandé 6 fois et qui ne voulaient pas revenir. Paul étendait cet amour à tous ces gens-là parce que Jésus-Christ a sauvé toutes ces personnes. Frères et sœurs, tous ceux pour qui Jésus-Christ a versé son sang, qu'il a racheté au prix de sa grâce, sont précieux dans nos cœurs. Tous, sans exception. Celui qui m'a offensé, celui qui m'a blessé, celui qui m'a méprisé, s'il a reçu la grâce de Christ, il est cher à mon cœur. Et je vais le porter sur mon cœur. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile. De nous prendre aux 4 coins du monde, des gens tellement différents, complètement dépareillés, et tous pécheur et magané, totalement dépravé, comme nous disait John MacArthur. De nous rassembler par la puissance de l'Évangile, de nous pardonner nos péchés par le sang de Jésus-Christ, parce qu'on place notre foi dans son sacrifice, et de faire de nous un peuple nouveau. Et à compter du jour où nous sommes justifiés, pardonnés par le sang de Jésus-Christ, une œuvre de grâce commence dans nos vies. Certains, ça va aller plus vite, d'autres plus lentement. Il va y avoir des moments d'arrêt, des moments de ralentissement. Il va y avoir des sprints où la grâce va être tellement manifeste dans nos vies. Mais dans chacune de nos vies, je suis persuadé que celui qui a été assez puissant pour arracher Christ aux griffes de la mort, il va achever l'œuvre qu'il a commencée. Et je veux bénir Dieu pour chaque indice, chaque moindre indice d'une manifestation de la grâce dans la vie des frères et sœurs. Et je veux chérir dans mon cœur chacun d'entre eux. Et je suis persuadé, frères et sœurs, je vous le dis parce que je le vois, parce que je le voyais ce matin. Je vois l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je peux dire déjà, cette assemblée est caractérisée par l'amour les uns pour les autres. Je pense que celle-là, à mon avis, c'est celle qui avance le plus. Je crois que Dieu veut aussi qu'on soit caractérisé par la foi qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et je sais que Dieu veut nous amener à rendre grâce pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, avec foi qu'il va continuer cette œuvre. En terminant, je veux m'adresser à toute personne ici ce matin qui ne connaît pas personnellement Jésus-Christ. Ce que vous avez entendu dans les dernières 40 minutes, c'est ce que Dieu veut faire avec votre vie. Ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle où nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, commencer à nouveau en Jésus-Christ. Et si vous êtes moindrement honnête avec vous-même, vous êtes capable de reconnaître que vous n'arriverez pas à vous transformer vous-même. Ça prend la puissance de l'Évangile pour amener un individu à reconnaître son état de péché et à crier à Dieu pour que Dieu vienne le transformer. Et au moment où nous reconnaissons notre état de pécheur et nous nous accrochons à la croix de Jésus-Christ, à son sacrifice pour le pardon de nos péchés, la parole de Dieu nous assure qu'à ce moment-là, Dieu nous donne son Esprit Saint qui vient habiter en nous et qui non seulement nous justifie de toute faute, de tout péché, mais commence à nous transformer pour nous amener à l'image de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ça la vie qui t'est offerte. C'est la vie que nous vivons ensemble. Des pécheurs, toujours pécheurs, jusqu'à la fin. La perfection, c'est vrai, ne va venir qu'à la fin. Mais des pécheurs pardonnés dans un processus de transformation où jour en jour, de jour en jour, l'œuvre de la grâce vient nous transformer. C'est la vie qui t'est offerte en Jésus-Christ. Tu n'as qu'à placer ta foi dans le sacrifice de Christ, la puissance de l'Évangile. On va prier ensemble. Ô Seigneur, que dire d'autre? Sinon, merci, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, t'exprimer ma joie pour ce que tu as commencé à faire en nous, pour ce que tu as commencé à faire dans cette assemblée. Seigneur, je veux te confesser que chaque fois que je sombre dans le découragement en pensant à un frère, à une sœur qui ne va pas, en pensant à des besoins dans l'assemblée, en pensant à toutes sortes de situations, Seigneur, je veux te confesser que c'est un manque de foi envers toi que j'exprime, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu. Je crois dans tes promesses. Je crois que tu n'es pas un Dieu menteur. Je crois que si tu as ressuscité ton Fils, Jésus-Christ, d'entre les morts, tu vas être fidèle aussi pour achever l'œuvre que tu as commencée. Je crois, Seigneur, que je dois lutter dans la prière pour un frère, pour une sœur qui s'éloigne, mais lutter avec foi que tu vas achever cette œuvre que tu as commencée. Et je te bénis, Seigneur, Je te remercie pour tout ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Je te bénis pour tout ce que j'ai entendu ce matin, dans les annonces, dans les louanges, par des frères et sœurs qui sont venus me voir, où je vois, Seigneur, l'œuvre de ta grâce dans leur vie. Je te bénis pour ça, Seigneur. C'est la source de ma joie de voir ce que tu fais dans nos vies, de voir la puissance de l'Évangile se déployer dans nos vies, Seigneur. Et j'ai cette confiance. Je suis persuadé, Seigneur, que tu vas continuer à nous faire grandir dans cette grâce, dans cette joie. Sois béni, Seigneur.